Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité fait l'actualité, c'est le président du gouvernement, Thierry Santa, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation au lendemain de votre déclaration de politique générale. C'était hier devant le Congrès et elle était attendue, cette déclaration. Les élections provinciales, c'était le 12 mai, il y a plus de 3 mois maintenant. On sent de l'impatience dans la population, chez les acteurs économiques et sociaux. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps ?
Alors, d'abord, quand même rappeler que le gouvernement n'a été installé que le 7 juillet, donc c'est une chose, mais surtout, alors, pour être très sincère, je devais la faire un peu plus tôt, mais étant obligé de participer au Forum des îles du Pacifique la semaine dernière, j'ai été donc contraint de la décaler un petit peu et de la prononcer donc hier. C'est aussi parce que j'ai voulu vraiment prendre le temps de la concertation avec mes collègues du gouvernement. On a fait les choses par étapes. Je leur ai fait une première proposition il y a une semaine, un peu plus d'une semaine de ça, pour qu'ils aient le temps donc de la regarder, sachant qu'en amont, je leur avais demandé de me faire remonter leurs éléments de langage dans leur secteur respectif.
Voilà, parce qu'il y a une contribution en fait des 11 membres du gouvernement dans cette déclaration, c'est pas seulement la vôtre.
Quoi. Exactement, c'était vraiment mon souci, c'est que ce soit une déclaration qui soit représentative de l'ensemble de mes collègues du gouvernement, et c'était l'intérêt de cette démarche en plusieurs temps, où chacun a contribué véritablement dans tous les secteurs qui sont les siens.
Alors, est-ce qu'il y a une méthode Santa ? On parle de vous comme quelqu'un de très consensuel, qui recherche la collégialité. Ce que vous nous disiez depuis l'origine, depuis que vous pouviez être élu président du gouvernement, vous vouliez rétablir cette collégialité. On vous a même reproché hier d'être trop consensuel. Alors, c'est quoi cette méthode ? Et le palabre, comment est-ce que vous allez le mettre en œuvre comme président du gouvernement ?
Je ne sais pas s'il y a une méthode Santa, en tout cas c'est la manière dont je veux fonctionner. J'ai toujours considéré qu'une action, une décision qui est prise avec le maximum d'échanges en amont et de concertation en amont, dans le cadre donc du principe du palabre, c'est la même chose, hein, dans le monde océanien, c'est comme ça que ça fonctionne. D'abord, elle a le plus de chances d'être acceptée par le plus grand nombre, et surtout, elle a la forte chance d'être pérenne dans le temps. Vous avez deux façons de fonctionner, hein. Soit vous prenez des décisions et vous les imposez, ça peut durer peut-être un certain temps, mais vous vous retrouvez face à des fortes oppositions et jusqu'au point où finalement la décision que vous prenez tombe. Soit vous utilisez cette méthode, que celle que je préconise plutôt, qui consiste à prendre un peu plus de temps en amont, de concertation, d'échange, d'essayer de trouver les bons équilibres en fonction de ce que vous entendez face à vous, et proposer donc un texte, en l'occurrence si on parle du gouvernement, qui soit plus accepté, plus reconnu, et donc plus reconnu dans le temps, et avec le moins de risque finalement d'avoir une opposition face à lui. C'est plutôt de cette façon-là que je souhaite travailler, et que je travaille de toute façon depuis toujours. Après, ça n'empêche pas malgré tout, parce que la recherche du consensus, vous savez, il ne faut pas non plus être naïf, hein, on n'y arrive pas toujours, mais quand il faut prendre des décisions, et bien, il faut les prendre malgré tout. Mais ça n'empêche que ce principe préalable de discussion, de palabre préalable, me paraît le plus pertinent pour qu'une décision soit le mieux acceptée.
Donner l'impression de perdre un peu de temps pour en fait en gagner plus tard.
Quoi. Exactement. Le fait de perdre un peu de temps au début, je le répète, ça évite peut-être de modifier ensuite le texte du fait de réactions qu'il y a a posteriori. Voilà, ça évite de perdre, comme vous le dites si bien, du temps après.
Vous avez lancé également, à la fin de votre déclaration, un appel à la responsabilité de tout le monde, en disant, on réussira collectivement ou on ne réussira pas. Vous sentez ce sentiment de responsabilité dans la société calédonienne, ou vous vous sentez un peu seul ?
Alors c'est un appel que j'ai lancé en clôture de ma déclaration hier matin, en considérant qu'on a de tels défis face à nous, aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, que les responsables politiques que nous sommes devons impérativement mettre de côté toutes nos querelles politiciennes et chercher tous ensemble les meilleures réponses à apporter aux difficultés que nous rencontrons. Je constate, à la suite des diverses réactions que j'ai entendues de la part de mes collègues de l'hémicycle du Congrès, qu'il y a encore visiblement beaucoup de travail à faire en la matière, mais je ne désespère pas que les choses évoluent plus tard.
Vous avez été déçu par ces réactions. Elles étaient presque prévisibles. Vous avez un soutien, bien sûr, de l'avenir en confiance, soutien de l'éveil océanien. L'Union calédonienne semble accueillir votre discours avec plutôt satisfaction. Des réserves de l'UNI et puis des critiques très vives de Calédonie Ensemble. À la limite, on pouvait dire c'était écrit avant, non ?
Ben, on peut le penser, mais effectivement. Mais je répète, hein, ce discours de politique générale est la compilation des propositions formulées par tous mes collègues. Absolument tous mes collègues du gouvernement. Et tous mes collègues représentent toutes les sensibilités politiques du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc je suis un peu surpris malgré tout de l'ampleur de ces critiques, pour certains d'entre eux. Ça veut dire que d'une certaine façon, ils critiquent aussi leurs représentants au sein du gouvernement. Mais bon, après c'est peut-être encore des relents de politique politicienne, hélas, que nous connaissons bien en Nouvelle-Calédonie.
Alors venons-en à cette déclaration de politique générale, un peu plus d'une heure. Beaucoup de pistes de travail, beaucoup d'annonces, de projets. On le disait, il y a une impatience dans la population. Ça va être quoi maintenant vos priorités ? Une fois que vous avez annoncé tout ça, sur quoi est-ce que vous allez travailler dans un premier temps ?
Alors c'est vrai que si les personnes, nos auditeurs, prennent le temps de lire cette déclaration de politique générale, qui est quand même assez longue, il y a une colonne vertébrale dans cette déclaration qui est l'avenir de notre jeunesse, l'avenir de nos générations de demain.
La jeunesse, grande cause territoriale.
Exactement. Et quand on a ça à l'esprit, la question qu'on se pose immédiatement derrière, c'est comment ce 16e gouvernement peut réfléchir et mettre en œuvre les dispositions et les actions qui permettent de créer un avenir serein pour nos enfants de demain. Et à partir de là, j'ai décliné toute ma déclaration de politique générale sur tous les sujets finalement de société qui nous concernent en Nouvelle-Calédonie. Ceux qui seront forcément les plus urgents, et je l'ai dit à la fin de ma déclaration, ça sera d'abord le rétablissement de nos comptes sociaux. Nous sommes vraiment dans une situation extrêmement grave. Avec un déficit de trésorerie prévisionnelle, je parle juste de la trésorerie prévisionnelle de plus de 7 milliards à la fin de cette année. Donc il faut que je trouve 7 milliards de trésorerie pour pouvoir faire fonctionner nos établissements hospitaliers, rembourser tous les particuliers, payer les opérateurs de santé. Donc c'est une difficulté qui est face à moi. Je suis en discussion aujourd'hui avec la CAFAT, qui dispose de certaines trésoreries dans d'autres régimes que le RUAM. Je suis également en discussion avec le FSH, qui également dispose de quelques milliards de trésoreries. Tout ça n'étant que sous la forme d'avance de trésorerie. Ça veut dire que le gouvernement s'engagera à rembourser, bien sûr, ces sommes que prêteraient ces organismes au gouvernement, si tant est qu'on arrive à se mettre d'accord.
Ça, c'est ce que vous appelez gérer l'urgence.
Hein, c'est gérer l'urgence. Derrière, c'est surtout gérer le temps nécessaire pour prendre les mesures de fond pour pérenniser notre système de santé et de sécurité sociale. Et la deuxième urgence que le gouvernement s'est fixée, et j'espère que les gens l'ont compris dans cette déclaration de politique générale, c'est la relance économique. C'est lié, d'une certaine façon. En relançant l'économie, on va aussi alimenter les caisses de la CAFAT et donc du RUAM. Mais on va aussi, surtout, alimenter les caisses des collectivités de la Nouvelle-Calédonie. Parce que là aussi, la situation est gravissime. On se rend compte que les prévisions de recettes qui étaient inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie sont surévaluées, nettement surévaluées, et en particulier la TGC. Le produit de la TGC n'est pas du tout à la hauteur que ce qui a été inscrit au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Et on s'en rendra compte bientôt dans le cadre du budget supplémentaire qui va être présenté au mois de septembre au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, où on va devoir prendre des mesures extrêmement dures de réduction de notre budget de la Nouvelle-Calédonie, qui a des conséquences sur les budgets des provinces. Parce que vous le savez, hein, la Nouvelle-Calédonie, par la clé de répartition, finance largement le budget des provinces, mais aussi des communes, avec le fonds intercommunal de péréquation, qui est versé donc, par la Nouvelle-Calédonie aux communes. Tout cela donc, se répercute finalement sur toutes les collectivités. Et on se retrouve dans une situation extrêmement grave. Et donc, pour relancer l'économie, parce que c'est peut-être la question que vous alliez me poser derrière, Madame Noire, on a des mesures concrètes qui sont proposées dans cette déclaration de politique générale, des mesures d'abord de texte de loi pour redonner confiance à nos opérateurs du monde économique. Le premier d'entre elles, et les concertations démarrent dès la semaine prochaine, concerne une loi de relance, justement, mais qu'on veut faire en étroite concertation avec le monde économique. Et donc Christopher Gigès, qui est le membre du gouvernement chargé de ce secteur, commence dès la semaine prochaine une consultation donc, du monde économique, en province sud d'abord, mais il va également aller dans le nord et dans les îles, pour construire donc, cette loi de relance avec eux. Et dans l'objectif principal sera d'améliorer la compétitivité de nos entreprises, mais aussi de donner du pouvoir d'achat aux Calédoniens. Donc c'est vraiment les deux objectifs qui vont sous-tendre ce travail de concertation pour établir cette loi.
Et ensuite, vous avez annoncé, c'est une loi de réglementation fiscale.
Exactement.
Pour rétablir la confiance, dites-vous, auprès des... On va reprendre tout ça, on va un peu décliner tout ça, mais il y a beaucoup d'informations déjà. Je vais revenir tout de suite, bon, on va revenir sur les comptes sociaux, puisque vous dites c'est l'urgence, donc d'abord gérer l'urgence, mais après, vous disiez hier, le déficit de trésorerie continuera de se creuser tant que des décisions courageuses ne seront pas prises. Quelles décisions? Ça fait un peu peur.
Mais ça fait pas fort, c'est pas l'objectif en tout cas. Mais par contre, c'est un objectif de sincérité et de responsabilité. Je répète, on est face à un déficit tel que on sera obligé de trouver les économies nécessaires en termes de dépenses. Là, plusieurs propositions concrètes vont être présentées au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Également en termes de recettes, donc je l'ai dit dans ma déclaration hier, on va créer une taxe comportementale sur le sucre qui sera directement affectée donc, à l'ASS dans un premier temps et peut-être à la CAFAT si réglementairement c'est possible. Pour essayer de retrouver cet équilibre. Je parlais tout à l'heure de 7 milliards de déficit de trésorerie, mais en termes de déficit global, on est plutôt aux alentours d'une vingtaine de milliards. C'est de ça dont on parle. C'est-à-dire que le déficit structurel annuel de la Nouvelle-Calédonie en matière de santé tourne autour de 5 à 6 milliards chaque année. Mais cela depuis déjà...
Ça s'est cumulé.
Depuis 4-5 ans. Donc le cumul de tout ça... On arrive à plus de 20 milliards aujourd'hui de déficit global de notre système de santé. Donc il faut trouver les mesures pour rééquilibrer tout ça. Donc ça passera par des mesures peut-être difficiles, y compris de la part de notre population calédonienne. Je le dis parce que, encore une fois, je veux que les choses soient dites et que je veux parler en sincérité. De responsabilisation des consommateurs de soins, entre guillemets, peut-être de contrôle médical un peu plus précis et poussé pour éviter les abus qu'on peut constater par ailleurs. On a eu, pas plus tard qu'hier, dans le journal, un exemple concret du type d'abus qu'il faut éviter. Mais aussi derrière, après, des changements de gouvernance globale. C'est-à-dire que le Congrès, demain, va voter un objectif calédonien d'évolution des dépenses de santé et de protection sociale. C'est les élus qui vont définir le montant global de dépenses autorisées pour l'année suivante. Et on va créer une autorité indépendante de régulation qui, elle, sera chargée de contrôler si les dépenses et les recettes, finalement, respectent ce montant de dépenses maximum.
Qui ne pourra pas être dépassé, quoi. Ce sera...
Ne pourra pas être dépassé. Et tout ça en concertation étroite avec la CAFAT, puisque la CAFAT, tout le monde le sait, joue un rôle essentiel dans ce dispositif. J'ai aussi en tête la création d'un numéro unique d'assuré social. C'est une vraie difficulté aujourd'hui parce que, en l'absence de cette identification unique, on a beaucoup de mal à avoir des informations très précises sur les actes utilisés par les Calédoniens et les opérateurs de santé. Alors que, avec ce dispositif, qui bien sûr serait lié à une numérisation de tout le système, permettrait de suivre plus précisément. Et même à un médecin, plutôt que de demander, je vais vous donner des exemples concrets, demander des radios supplémentaires, le fait d'avoir le dossier médical de la personne sous les yeux et constater que des radios existent déjà, ça évitera ce genre de redondance.
C'est le système qui existe un peu en métropole, quoi, où il y a un numéro d'assuré social.
C'est un système qui existe en métropole et un peu partout dans le monde, pour être très clair, on réinvente pas la roue, mais on est très en retard en la matière. Donc il y a plein de procédures, propositions comme ça. On parle aussi de télémédecine, plutôt que de faire déplacer des médecins dans le nord ou dans les îles. Voire de faire des évasanes, un jour on pourra peut-être procéder à des diagnostics par télémédecine avec des experts partout dans le monde. Enfin voilà, il y a plein de possibilités pour réduire finalement nos dépenses de santé.
Et je rappelle que vous avez pris la charge vous-même au gouvernement des comptes sociaux. Vous parliez également des comptes publics. Est-ce que la situation est vraiment pire que ce à quoi vous attendiez? Parce que vous aviez eu l'occasion de dire, et notamment pendant la campagne, que la situation économique était catastrophique. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, vous découvrez les uns et les autres que c'est pire que ce qu'on croyait. Alors c'est de la politique politicienne à laquelle vous vous livrez ou il y a vraiment un problème?
Alors, vous savez, quand on se retrouve aujourd'hui avec la direction du budget et des affaires financières de la Nouvelle-Calédonie qui nous annonce que sur les 51 milliards prévus au budget primitif en produit de TGC en 2019, que en définitive, vu les rentrées déjà constatées depuis le début de l'année, on risque de se retrouver avec 7 milliards de moins, voire peut-être plus. Je l'espère moins, parce que si la relance économique reprend, ben, on aura aussi du produit de TGC, mais dans les estimations, les simulations qui sont faites aujourd'hui, c'est 7 milliards de moins sur les 51. Ça veut dire plus de 15% de moins que les prévisions. Quand j'entends mes prédécesseurs m'expliquer qu'un budget supplémentaire, c'est normal que ce soit un budget d'ajustement, j'ai jamais vu un ajustement de moins 15%. Une recette de moins 15%, ça veut dire que soit la prévision initiale est pas bonne, soit des mesures qui ont été prises ont eu des conséquences négatives sur la prévision initiale. Pour être clair, on a de fortes présomptions qu'il y a eu une surestimation sur la base, soi-disant, d'un rapport qui prévoyait une croissance économique en Nouvelle-Calédonie de plus de 3%, le rapport Syndex. Je ne sais pas si les auditeurs s'en souviennent, ça a été un grand débat au Congrès, au budget
oui,
primitif.
On a eu l'occasion
mais aussi,
d'en parler. Ouais.
Au-delà de cette prévision surestimée, aussi des mesures peut-être d'exonération qui ont été prises par le gouvernement précédent, qui ont eu un impact négatif sur le produit de la TGC. Tout cela aboutit à la situation que je vous ai décrite tout à l'heure, de comptes publics, dans le rouge, qui vont nous empêcher, pour être très sincère encore une fois, nous empêcher de mettre en œuvre une partie des actions qu'on envisageait de mettre en œuvre rapidement au bénéfice des Calédoniens. Il faut dire les choses comme elles sont. On va devoir d'abord combler ces déficits avant de pouvoir lancer finalement un certain nombre d'actions prévues dans la déclaration de politique générale.
Alors, vous nous parliez des deux lois qui sont prévues, l'une de relance économique, l'autre de programmation fiscale, avec notamment une simplification de la TGC. Ça, c'est une mesure que vous allez prendre assez rapidement.
Assez rapidement, avant la fin de l'année. Donc, cette loi de programmation fiscale sera adoptée, je l'espère, par le Congrès avant la fin de l'année. En tout cas, nous la présenterons au Congrès avant la fin de l'année. Parce que c'est un élément essentiel pour les entrepreneurs, d'avoir cette perspective finalement, parce que l'objectif, je le rappelle, de prévoir l'évolution de notre fiscalité, globalement parlant, sur les 5 années à venir. Et quand des chefs d'entreprise n'ont pas cette perspective, ce qui a été le cas ces dernières années, où tous les ans quasiment on crée une nouvelle taxe, donc quand vous faites un business plan, un projet d'investissement pour une entreprise, elle prévoit les dépenses qu'elle va devoir supporter dans les années à venir, et bien sûr le chiffre d'affaires potentiel en face. Mais si ces dépenses qu'elle prévoit augmentent au fil des ans par la suite, sans que ce soit prévu au départ, vous imaginez bien que la rentabilité de l'opération décroît au fil de la fiscalité qui augmente. Donc notre objectif à nous, c'est de stabiliser tout ça, voire si possible réduire certaines fiscalités, pour que les chefs d'entreprise puissent établir ces business plans et procéder aux investissements qui vont avec, et surtout créer les emplois qui accompagne les investissements nouveaux, le développement des entreprises calédoniennes. Parce que c'est ça qui nous intéresse. On m'a reproché aussi de ne pas travailler pour la vie chère. Mais moi, pour moi, la meilleure façon de travailler contre la vie chère, c'est d'avoir un emploi, d'abord. Et ensuite, augmenter le pouvoir d'achat des Calédoniens. Et enfin, mettre en œuvre les dispositions de l'autorité de la concurrence pour développer la concurrence en Nouvelle-Calédonie, qui a pour effet logique une baisse des prix. Voilà comment on va pouvoir lutter véritablement contre la vie chère. C'est de cette façon-là qu'on y arrivera.
La relance de l'économie, donc là aussi, il y a une loi qui va être en préparation. Vous le disiez, Christopher Gilles va animer un grand débat pour les entrepreneurs. Mais les pistes, c'est quoi ? C'est, vous disiez, libérer l'initiative, soutenir l'initiative privée, favoriser l'innovation. C'est donc plusieurs pistes à la fois que vous allez suivre.
On a surtout l'objectif de diversifier également notre économie calédonienne. Donc on a nos fondamentaux, bien entendu, qu'on va soutenir, je pense au nickel.
Et on y reviendra là aussi.
On en parlera, mais on a surtout l'objectif de diversifier notre économie calédonienne. On a la chance d'avoir un environnement extraordinaire ici en Nouvelle-Calédonie, une biodiversité exceptionnelle. Je l'ai dit dans ma déclaration de politique générale, 76% de nos espèces sont endémiques. C'est exceptionnel. Dans le monde, très peu atteignent ce taux-là. On a la chance, en plus, par exemple, d'avoir des organismes de recherche de grande qualité. ici en Nouvelle-Calédonie. Avec ces deux éléments-là, je suis convaincu qu'on peut créer de nouvelles filières de croissance économique. Bien entendu, dans les domaines qui aujourd'hui deviennent classiques, environnementaux, de développement durable, d'énergie renouvelable, là-dessus, on a déjà bien avancé ici en Nouvelle-Calédonie et on va encore continuer à le faire et on va soutenir, nous, cette filière du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la formation jusqu'à la création d'emplois à proprement parler. Mais on a un autre domaine qui, je crois, n'est pas suffisamment exploité aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, c'est justement cette biodiversité exceptionnelle. Et quand je dis ça, je pense aux biotechnologies, où on a des molécules, grâce à cette biodiversité, qui peuvent servir en matière de santé, en matière de cosmétiques, en matière de tissus, en matière de nutraceutiques, enfin, donc plein de domaines qui demandent à être développer, trouver d'abord, ça veut dire des recherches, de l'innovation, et ensuite à partir de là, créer des start-up qui peuvent développer une nouvelle activité économique. C'est déjà un peu le cas, il y a déjà quelques start-up qui ont été créées, très peu, mais je suis convaincu que c'est vraiment un domaine sur lequel on a des marges de manœuvre et des perspectives extraordinaires ici en Nouvelle-Calédonie, et donc on va soutenir fortement le monde de la recherche pour aller dans ce sens et trouver ces petites molécules calédoniennes qui peuvent apporter beaucoup de choses au monde entier.
Alors l'environnement, on l'a remarqué que c'était l'un des thèmes forts hein, de cette déclaration de politique générale. Vous êtes devenu écologiste, c'est pour être dans l'air du temps ou c'est une vraie conviction ?
Alors c'est une vraie conviction, je ne suis pas devenu écologiste. Enfin, c'est tellement évident aujourd'hui que la situation du monde est sujette à au-dessus d'elle une épée de Damoclès qui s'appelle le réchauffement climatique. Je l'ai ressenti à 1000% la semaine dernière quand j'étais à Tuvalu, à l'occasion du Forum des îles du Pacifique. Quand on est sur un atoll comme ça et qu'on entend que si d'aventure le monde ne respecte pas les engagements de l'accord de Paris, c'est-à-dire de prendre toutes les mesures pour faire en sorte que le réchauffement climatique ne dépasse pas 1,5 degré d'ici 2050, ces atolls disparaîtront. Pas compliqué, ils n'existeront plus. Et donc les habitants qui y habitent aujourd'hui vont devoir se déplacer et aller vivre ailleurs. Et vous imaginez bien que c'est pas leur souhait. Et ça a été l'objet d'une longue, longue discussion pendant la retraite des leaders pour faire une déclaration commune du Forum des îles du Pacifique qui sera présentée à l'ONU et à la COP25, donc au plus haut niveau international. Pour alerter le monde sur la situation que nous vivons. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand on parle de ces petites îles qui risquent de disparaître, c'est le monde entier qui partira d'un réchauffement au-delà de 1,5 degré. C'est les vagues de chaleur qui seront plus importantes à certains endroits, c'est les vagues de froid qui seront les plus importantes à d'autres endroits, c'est les cyclones qui seront plus importants partout dans le monde, c'est toutes les conséquences climatiques que va engendrer ce réchauffement qui va concerner le monde entier. Et c'est ça que les îles du Pacifique veulent expliquer, veulent que les grandes industries internationales prennent conscience de l'impact que leur activité représente pour tout le monde.
Au chapitre de l'environnement, vous parlez même du développement du tourisme écologique en Nouvelle-Calédonie. Malheureusement, on n'aura pas le temps de parler de tout. Je voudrais quand même que vous nous parliez du nickel, puisque c'est quand même au cœur de l'économie et de la vie de la Nouvelle-Calédonie. Vous dites que vous voulez accompagner la mutation du nickel. Deux idées fortes. La première, c'est le sauvetage de la SLN. C'est une chose à laquelle vous allez vous attacher.
Effectivement, on ne peut pas parler du nickel sans parler d'abord et avant tout du sauvetage de la SLN, qui est dans une situation extrêmement critique. J'ai pris l'engagement, j'ai proposé dans ma déclaration de politique générale hier de demander au président du Congrès de créer une commission spécialement dédiée au suivi de la réalisation de la centrale C. Parce qu'aujourd'hui, c'est le troisième pilier de sauvetage de la SLN, c'est la baisse de son coût énergétique. Et la centrale C, donc la future centrale électrique qui doit être construite, est essentielle à ce niveau-là pour que la SLN puisse continuer à vivre encore plusieurs dizaines d'années. Et donc on va lancer le projet le plus vite possible et en faisant cela de manière la plus transparente possible par l'intermédiaire donc d'une commission ad hoc qui serait proposé au Congrès pour que les élus du Congrès puissent suivre l'évolution de ce dossier dans le temps, parce que le constat que nous faisons aujourd'hui, on parle de ce sujet quand même depuis plus de 2 ans, et je parle de la centrale pays, hein. Sinon, le sujet de la centrale C, c'est encore plus ancien. Mais ça fait déjà 2 ans que ça devait être mis en œuvre et rien n'a été fait, finalement, depuis 2 ans. Donc un retard a été pris et la SLN, aujourd'hui, la centrale aujourd'hui qui fait fonctionner les fours de la SLN ne tiendra pas aussi longtemps, enfin 2 ans de plus. Il va bien falloir accélérer les choses pour tenir les délais prévus initialement. Donc voilà où on en est. Et à partir de là, quand on met ce point d'urgence de côté, ce qui m'intéresse surtout, et c'est ce que j'ai voulu garder en compétence directe au niveau du président, c'est la définition du schéma minier global.
Schéma métallurgique et minier dont on parle depuis des années. Voilà. Là aussi, vous pensez que vous allez arriver à le faire aboutir ?
Il y a un schéma minier aujourd'hui. Enfin, il y a un code minier, pardon, qui a été voté en 2009, qui existe aujourd'hui. Mon objectif, c'est de le faire évoluer et de le faire évoluer de telle manière qu'il soit plus large que ce qu'il est aujourd'hui. Il est très technique, on va dire, aujourd'hui. Mon objectif, c'est vraiment qu'il y ait une stratégie globale partagée par tous en Nouvelle-Calédonie, qui soit définie. On sait tous qu'il y a 2 visions. Je vais dire ça comme ça, aujourd'hui...
Les exportations de minerais, le traitement sur place
doctrine,
et les usines offshore.
Voilà, donc mon objectif, c'est d'essayer de concilier ces 2 visions en expliquant peut-être que la manière d'y arriver, c'est en passant par la création du fonds pour les générations futures. Ce fonds qui serait alimenté peut-être, tout ça, je dis bien avec conditionnel, parce que ça aussi, ça m'a été reproché que des choses n'étaient pas suffisamment précises dans ma déclaration. Mais parce que je veux faire les choses en concertation et en discussion, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc mon objectif, c'est que ce fonds puisse peut-être être alimenté par une redevance d'extraction, par exemple. Autrement dit, une ressource régulière, quelle que soit la quantité de minerais extraites, et qui alimente ce fonds pour les générations futures. Et donc, peut-être s'extraire de la difficulté qui est celle d'aujourd'hui, de conflit entre ceux qui préconisent une augmentation de capital dans les usines calédoniennes et ceux qui préconisent plutôt une libre concurrence totale sur l'exportation de minerais. Dès lors qu'on a cette redevance d'extraction qui serait prise en charge par tout un chacun, on sort un peu de ce clivage idéologique sur le mode de valorisation de notre minerai. Même si, en ce qui me concerne, je ne suis pas convaincu que l'augmentation de capital dans des usines soit la meilleure solution, pour être très clair et très transparent encore une fois. Quand on voit la situation qui est celle d'aujourd'hui, avec les cours du nickel que nous connaissons et les difficultés que connaissent les usines, l'augmentation de capital dans les usines, c'est surtout des augmentations de dettes derrière. Ce n'est pas des dividendes que l'on reçoit, c'est des dettes qui s'accumulent aujourd'hui. Donc c'est pas forcément, à mon sens, et là c'est un avis très personnel que je vous donne, la meilleure solution pour valoriser notre minerai calédonien.
Et on sent que ça va être compliqué de concilier tout cela. Vous avez dit, donc pour revenir à l'économie, c'est quand même le point sur lequel on attend votre gouvernement. Vous voulez faire retrouver à la Calédonie le chemin de la croissance, de la prospérité et de la création d'emplois. Est-ce que vous en aurez les moyens ? Vous nous dites que ça va être difficile, mais comment est-ce que vous allez financer cette relance à laquelle vous aspirez ? Alors, il y a plusieurs pistes, vous en avez parlé là aussi hier. Il y a les contrats de développement où il y a qui n'ont pas été consommés, on va pouvoir peut-être retrouver un peu d'argent là-dessus. Il y a un grand emprunt auprès de l'État qui est envisagé. Et puis, en dehors de l'État, de nombreuses sources de financement existent à travers le monde. Ça veut dire quoi ? Auprès de qui vous pouvez aller chercher de l'argent ?
D'abord auprès de l'Europe, et ça je l'ai dit aussi, l'Europe nous aide déjà beaucoup par l'intermédiaire des fonds européens de développement. J'ai eu plusieurs contacts dès ma prise de fonction avec les représentants européens ici en Nouvelle-Calédonie, mais aussi encore à Tuvalu pendant mon déplacement, avec une politique européenne qui va évoluer bientôt en 2021, le mode de financement de l'Europe au bénéfice des pays et territoires d'outre-mer des pays de l'Union européenne sera plus simplifié et peut-être mobilisera davantage de fonds. Donc je l'espère que tout ça va se concrétiser et que la Nouvelle-Calédonie pourra bénéficier encore plus de l'aide de l'Europe. Pour donner un ordre d'idée, c'est par exemple aujourd'hui le Fonds européen de développement, c'est 3 milliards d'euros sur 5 ans. On a également l'Europe toujours là dans des fonds, des aides régionales au bénéfice de plusieurs pays. Dans le Pacifique, on a 4 pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne que sont donc la Nouvelle-Calédonie, le Wallis et Futuna, la Polynésie française et Pitcairn, encore aujourd'hui, pour la Grande-Bretagne. Ces 4 pays bénéficient, enfin ces quatre territoires, excusez-moi, bénéficient de 4 milliards, plus de 4 milliards d'aides de la part de l'Europe sur le projet Protège, en matière justement de protection de l'environnement. Donc vous voyez que ce sont des sommes quand même qui sont pas négligeables et qui peuvent nous aider nettement à mettre en œuvre des projets ici en Nouvelle-Calédonie qui participeraient à la relance économique.
Et le grand emprunt auprès de l'État, il est déjà en cours de discussion ou ce sera, ça peut aboutir lors du comité initiateur?
La discussion elle, n'est pas simple. N'est pas simple. Elle est en cours. On en parlera certainement aussi, peut-être pas au moment du comité à proprement parler, mais en tout cas en parallèle du comité, ça c'est sûr, dans les différentes rencontres bilatérales qu'on aura. On a par contre un autre moyen, peut-être, de faire intervenir l'État pour nous soutenir en la matière, c'est les contrats de convergence qui s'appuient sur la loi Égalité Outre-mer, qui ont déjà été signés dans les département d'outre-mer et à Wallis et Futuna assez récemment, sur lesquels ce dispositif sur lequel on pourrait s'appuyer pour avoir un peu plus de financement de la part de l'État. Mais il y a aussi, je le disais, hein, d'autres fonds qui existent de par le monde. Le Japon finance beaucoup d'opérations aussi en matière environnementale. Les États-Unis financent, je l'ai encore appris encore la semaine dernière. Donc il y a des fonds qui existent un peu partout dans le monde finalement. Et sur lesquels la Nouvelle-Calédonie ne se positionne pas. C'est souvent sur la base d'appels à projets. Et c'est la raison pour laquelle j'ai annoncé hier qu'on allait faire évoluer notre service des relations extérieures en direction des relations extérieures, dans lequel serait créé une entité, un service dédié à la recherche de ces financements internationaux pour ensuite le diffuser dans le monde économique pour que les sociétés calédoniennes puissent se positionner sur ces différents fonds. Et direction également, parce que vous le savez, on a des délégués maintenant qui représentent la Nouvelle-Calédonie à Fidji, au Vanuatu, au Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et il faut également une structure qui gère ces délégués pour qu'ils soient vraiment la parole de la Nouvelle-Calédonie dans ces différents pays et qu'ils soient alimentés régulièrement dans un sens et dans l'autre, hein, d'informations pour pouvoir tenir le rôle qui sera le leur.
Il y a encore un thème dont on n'a pas parlé, c'est la lutte contre la délinquance, la sécurité. On vous en avait parlé dans le secteur de la jeunesse, c'est l'un des aspects également. Là aussi, il y a un certain nombre de projets, de mesures que vous voudriez voir mises en œuvre. Vous voulez faire de la lutte contre les violences intrafamiliales l'une des priorités aussi?
Alors peut-être d'abord sur la jeunesse délinquante, une proposition assez claire dans ma déclaration de politique générale et qui est partagée par mes collègues, qui consiste à essayer d'intégrer davantage le monde coutumier dans les décisions de justice. Il y a pas très longtemps, il y a 15 jours de ça, le Congrès a donné un avis sur un projet d'ordonnance nationale sur la délinquance justement des mineurs, enfin sur les procédures pendant pénales à destination des mineurs, dans lequel avis on a mentionné l'objectif d'intégrer donc les responsables coutumiers dans la procédure amont de la procédure pénale, dans tout ce qui est mesures alternatives, avant justement que ça arrive en procédure pénale. Et on va s'inspirer pour cela beaucoup de ce qui se fait en Nouvelle-Zélande, de ce qu'on appelle les rangatahi courtes, qui sont des instances qui regroupent à la fois les autorités coutumières, les parents du délinquant concerné et les autorités judiciaires, et qui se mettent en œuvre avant que le jeune arrive dans un niveau de délinquance tel que finalement c'est tout de suite du pénal. C'est-à-dire qu'on essaie ces dispositions se mettent en œuvre au premier délit, quoi, pour éviter justement la récidive et que ça dégénère entre guillemets dans le temps. Et c'est visiblement très efficace. Ça permet à beaucoup de jeunes de retrouver un peu leurs valeurs fondamentales et de revenir dans le droit chemin avant de dériver définitivement vers la délinquance complète.
Les violences intrafamiliales, c'est aussi l'une des priorités.
Et c'est aussi une des priorités. On a, hélas, un record, hein, quasiment en Nouvelle-Calédonie en la matière. On a l'objectif de promouvoir des structures d'accueil des victimes de ces violences, que ce soit, hélas, des femmes, mais aussi des enfants, qui puissent être accueillis dans les bonnes conditions, dans des locaux aménagés, avec des structures, des aides psychologiques qui peuvent les accompagner, protégés surtout de leurs agresseurs. Mais on a aussi, avec un numéro unique à la disposition d'une femme qui pourrait être l'objet de violences au sein de sa famille et qu'elle puisse avoir un appel rapide et avoir une aide surtout rapide. Mais on pense aussi à un dispositif qui, plutôt que d'obliger la femme avec ses enfants à quitter le domicile, ce qui est d'une certaine manière une double peine. Elle se retrouve violentée et en même temps à la rue, que ce soit plutôt le mari. Et là, des discussions sont en cours avec les forces de l'ordre, que ce soit plutôt le mari qui quitte le domicile et que la femme et ses enfants soient protégés chez elle. Les forces de l'ordre et bien sûr le monde judiciaire pour essayer de mettre en œuvre plutôt ce genre de dispositif. Donc il y a plein de projets qui sont en cours et sur lesquels on avance. Il y a déjà des structures d'accueil qui existent. Il y en a une au Mont d'Or qui est extraordinaire. Il y a la structure qui a été créée au Medipol, le COVA, mais qui n'est pas encore totalement opérationnelle, qui nécessite encore une organisation plus efficace. Voilà, donc les choses se mettent en place progressivement. Et puis le message surtout auprès du monde judiciaire, que les sanctions soient les plus fermes et les plus lourdes possibles à l'encontre de ces agresseurs, de manière à ce que les messages passent auprès de la population aussi.
Beaucoup de projets, beaucoup de thèmes, beaucoup d'annonces, on ne peut pas parler de tout, mais il y a une grande absence, et on vous l'a déjà dit également, c'est l'avenir institutionnel. Il va y avoir un deuxième référendum dans quelques mois maintenant. Vous n'en parlez pratiquement pas. Pourquoi ? C'est volontaire ?
J'en parle, c'est totalement volontaire. J'en parle pas du tout. Ou je l'esquisse dans mon introduction, mais justement pour dire que je ne parlerai pas. Parce que je considère que c'est pas le rôle du gouvernement de traiter de ce sujet. C'est un sujet éminemment politique. Et c'est le rôle des partis politiques de se saisir de ces questions. Et ils le feront, j'en suis convaincu, le jour où on sortira de l'accord définitivement, de l'accord de Nouméa, à l'issue des référendums. Quoi qu'il arrive, les responsables politiques de ce pays se retrouveront autour de la table avec l'État pour définir les modalités du statut futur de la Nouvelle-Calédonie. En ce qui me concerne, au sein de la République française, je l'espère, mais je l'ai dit hier, je respecte l'opinion de mes collègues indépendantistes, et même si la Nouvelle-Calédonie devient indépendante, il y aura cette discussion autour de la table avec l'État au lendemain des référendums. Et c'est à ce moment-là que toutes ces questions-là, institutionnelles, que ce soit le corps électoral, que ce soit la clé de répartition entre les provinces, que ce soit la structure du Congrès, que ce soit la gouvernance, enfin toutes ces questions véritablement institutionnelles seront évoquées à ce moment-là. Le gouvernement, lui, a la responsabilité de gérer la vie quotidienne des Calédoniens. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème transversal de l'avenir de notre jeunesse, parce que je suis convaincu que tous mes collègues, qu'ils soient au gouvernement, qu'ils soient au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ont la même envie de créer les conditions les meilleures pour leurs enfants demain, pour les générations de demain. Et à partir de cette logique transversale, quelle que soit l'issue, encore une fois, du institutionnel, tout le monde partage cette volonté de construire une Nouvelle-Calédonie où nos enfants se sentiront bien, se sentiront respectés, où ils trouveront leur place dans la communauté, leur place professionnellement parlant, leur place socialement parlant. C'est ça qu'on doit construire. Et c'est le rôle du gouvernement de travailler sur ce sujet, sur ces sujets-là, quel que soit, encore une fois, l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.
Il faut relancer l'économie, il y a des tas de projets, de secteurs à retravailler, redresser les comptes sociaux évidemment, trouver des solutions pour le nickel. Avec tout ça, les caisses sont vides. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, Thierry Santa ? Beaucoup de courage ?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Avec mes collègues.
Merci, Monsieur le Président du gouvernement, d'avoir accepté cette invitation dans le magazine Transparence.
Merci de l'invitation.